CRCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Nous avons commencé cette semaine avec le couple Kouaménan et aujourd'hui, il n'y en a qu'un des deux qui a tenu le choc. Nous avons gardé Sandra, tu vas bien ?
Ça va bien, merci.
On est vraiment très très heureuse de pouvoir te recevoir.
Merci de m'accueillir.
Tout s'est remis en ordre, Mathilde Aroma
Chablas,
tout va bien, il est de retour, c'est bon. On s'adapte. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté de venir témoigner, de partager tous ces aspects de votre vie qui ont été très très enrichissants. J'ai eu du mal à me remettre de l'émission d'hier sur passage de l'emprisonnement injuste et tout ça. Mais bon, ça va aller. Mais c'est inspirant. Vraiment, c'est très, très inspirant. Et aujourd'hui, on va parler de fausses couches. Parce que toi, Sandra, tu as vécu plusieurs fausses couches. Et c'est le cas, malheureusement, de plusieurs femmes. Et c'est un sujet de douleur, un sujet de souffrance. Mais tu as un message d'espoir à donner aujourd'hui. Donc, ça fait 18 ans que vous êtes mariée avec le pasteur Marcel Kouaménan. Et c'est ça, au cours de ces années de mariage, tu as vécu quelques fausses couches. Et j'imagine que pour toi aussi, ça a dû être des moments un peu difficiles.
Oui, en fait, donc comme beaucoup de couples hein, qui se marient, qui ont cette envie de fonder une famille, avec mon mari, donc on a eu le souhait d'avoir des enfants. Et malheureusement, les choses ne se sont pas forcément déroulées comme on peut l'attendre. Mm-hmm. Et j'ai eu une première fausse couche où j'étais enceinte à peu près de 2 mois. Donc avant cette fausse couche, donc on a eu le temps de faire l'échographie et on a eu le temps de voir le cœur du bébé battre. Alors c'est vrai qu'on tout de suite on a commencé à se projeter. Mmh. Je pense que les femmes aiment bien faire des projets d'avenir, etc. Et c'est vrai que tout de suite on s'imagine la layette, enfin tout un tas de trucs, on se monte des projets. Et malheureusement, la grossesse n'a pas pu aller à terme puisque j'ai perdu l'enfant à 2 mois. Mmh. J'ai ensuite fait, quelques temps après encore, une autre fausse couche, mais qui a été plus précoce. Donc là, on n'a pas eu le temps de faire l'échographie ni voir le bébé. J'ai perdu l'enfant encore. Et puis, j'ai encore eu une grossesse ultra rapide, là, cette fois, où j'ai été enceinte. À peine le bonheur est arrivé, la joie d'apprendre la nouvelle que déjà... la grossesse s'arrêtait sèche. Quoi.
Et c'est ça aussi qui est douloureux dans les fausses couches, c'est la douleur, c'est sûr, de perdre l'enfant, mais c'est cette montagne russe d'émotions, parce qu'on apprend qu'on est enceinte, et là, on est rempli de joie. Quand tu as appris que tu étais enceinte, tu étais rempli de joie aussi, j'imagine.
Ah oui, la joie extrême. Juste m'imaginer que je perdrais mon bébé tout de suite après, c'est la joie puis la tristesse en même temps. Mm-hmm. C'est dur pour le cœur. Hein, c'est dur, ça doit être dur sur les émotions. Moi, j'ai vécu autre chose, mais...
parce que c'est vrai que toi, quand on t'a annoncé que tu étais enceinte pour ta première fille, comment il y avait aussi des complications au niveau de la grossesse.
Ouais, 5 jours plus tard, j'avais appris... on m'a appris que j'avais le pré-cancer du côlon. Col de l'utérus, pardon. mais c'était au dernier degré, donc on m'a dit que si j'attendais le terme de la grossesse, ça serait cancéreux, un vrai cancer. Donc bref, c'était pas très réjouissant. C'est sûr que c'était des montagnes russes d'émotions pour mon cœur, mais tout est rentré dans l'ordre, gloire à Dieu. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre la douleur, je peux comprendre la déception, même si je ne l'ai pas vécu moi-même.
Et du coup, toi, Sandra, tu as vécu ces moments-là aussi avec ton mari, puisque vous étiez deux à attendre un enfant. Mais vous n'avez pas vécu la même chose. On pourra parler un peu de ton mari tout à l'heure, comment il a été un soutien pour toi. Mais comment est-ce que tu as fait pour... le lendemain, on perd son bébé. Qu'est-ce qui se passe le lendemain?
Moi, je pense qu'il faut vivre la chose. Faut être honnête avec soi-même. Il y a eu la douleur. Mm-hmm. J'ai perdu l'enfant. En plus, comme il y avait des projets qui déjà s'est monté, c'est aussi, non seulement c'est le deuil de l'enfant, mais c'est aussi le deuil de toute une vie, tout un projet qui s'est déjà installé et élaboré. Et puis c'est une épreuve de foi aussi, parce que Dieu a permis quelque chose qu'on comprend pas. parce qu'on se dit, bon, normalement, les projets de paix, de bonheur, etc. Et en fait, moi, j'ai été honnête avec moi-même. J'ai dit, bon, Dieu n'a pas permis. Il sait pourquoi. Ça ne sert à rien de dire, pourquoi, Seigneur, pourquoi. Je l'accepte. Je lui fais confiance. Si Dieu le fait comme ça, c'est qu'il a quelque chose pour moi. Et puis, donc, j'avais plein de peine. Alors, je l'ai sortie, cette peine. Mm-hmm. J'ai pleuré un bon coup. Je me suis accordée du temps. Je me suis accordé le temps, en fait, de pouvoir faire ce processus de deuil, de vider mon sac de peine. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, Seigneur, écoute, t'as permis, tu as tes raisons, je les connais pas, je te fais confiance, alors maintenant, c'est bon. J'ai eu mon temps de chagrin, maintenant, on va de l'avant, parce que ça sert à rien de se complaire éternellement. Mm-hmm. Dans la peine, ça n'apporte rien. Pleurer ouais. éternellement n'apporte rien. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, il faut se relever, et puis avancer, et puis mm-hmm. continuer. Donc,
Et toi, Anne, tu nous avais partagé dans une série d'émissions ce que tu avais vécu aussi mm-hmm. avec deux bébés. Puis on avait parlé de cette période de mm-hmm. deuil mm-hmm. où on avait finalement le choix de se relever un peu comme si rien n'était. Bon, mm-hmm. pas mal, mais mm-hmm. bon, la douleur est là. Mm-hmm. Et cette période où on prend le temps de penser nos plaies. Et...
Ouais, mais c'est vraiment une nécessité parce que si on le fait pas, ça nous rattrape. On a l'impression qu'on est passé tout droit, la tête haute, et que ça a pas fait mal, mais le corps s'en souvient. Je sais pas, il se passe des choses dans notre âme, des blessures qui sont là. Et si on les nie, même si on a la foi, même si on se remet à Dieu, même si Dieu nous console, mmh. ça nous rattrape parce qu'il y a des. C'est comme si tu te blesses à la main. Il faut aussi, avant de refaire la vaisselle, il faut que ça cicatrise. Mais c'est pareil. On a besoin d'une cicatrisation. Et si on se prive de ce temps-là, ça nous rattrape et des fois beaucoup plus fort. Mmh. Donc je pense qu'il faut pas faire les super héroïnes et puis dire même pas mal et je continue. C'est correct de pleurer un peu, c'est normal d'avoir de se prendre le coup. Hein. On se mmh. prend un coup quand même hein, dans ouais, une histoire comme ça. C'est comme si tu te prenais un uppercut là, boum. Et t'es un peu sonné, il faut te remettre. Et puis c'est pas manquer de foi que de s'accorder quand même un temps de ouf. J'ai pris un coup là maintenant. Ok. J'encaisse.
Surtout, la déception est encore plus grande quand on a vu le cœur du bébé, quand on l'a vu.
Ben oui.
On a planifié peut-être déjà la chambre. On savait si on attendait une petite fille ou un petit garçon. On avait déjà planifié plein de choses. Et là, la déception est encore plus grande, je pense.
C'est pour ça que c'est aussi un deuil d'un projet. C'est un deuil de... Il y a le deuil de l'enfant, mais il y a le deuil du projet de vie qui s'est déjà installé et du changement de... C'est un bouleversement. Mais il faut vraiment, oui, il faut pas le nier, il faut s'accorder vraiment ce temps. Oui. Après, le temps, peut-être, il est propre à chacun. Mm-hmm. Peut-être, moi.
Mm-hmm. Ça va vite.
Ça dépend, voilà. Moi, j'ai pas voulu. Enfin, j'ai pleuré le temps que j'ai eu la nécessité, qui n'a pas été forcément très long, peut-être, c'est vrai. Mais je me le suis accordé. Mm-hmm. Je me suis accordé, mais après, il faut se relever.
Mais c'est d'autant plus difficile si l'entourage est déjà au courant. Je sais qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes, que j'ai vues des fois annoncer très rapidement une grossesse. Mm-hmm. Alors. C'est pas être pessimiste que de dire faut quand même être un petit peu raisonnable avant de le chanter par tous les toits parce qu'il y a quand même statistiquement une grossesse sur six qui commence et qui ne finit pas. Mis à part les interventions humaines. Hein. Dire il y a une grossesse sur six, c'est beaucoup. Donc quand tu te dépêches dès que tu tombes enceinte de le crier sur tous les toits, disons que c'est bien, t'es contente, mais si jamais il y a quelque chose comme ça qui arrive, ça renforce beaucoup la douleur parce que les gens sont pas au courant. Mmh. Alors là, ça fait déjà un mois que t'as perdu le bébé, puis on vient te dire, c'est bien, là, si tu te portes bien, la grossesse se passe bien. Donc tu donnes le bâton pour te faire battre.
Plaie,
Donc, je pense qu'il y a il faut être un peu raisonnable et puis attendre quelques semaines avant de l'annoncer. Mais c'est pas être pessimiste, c'est pas voir le noir, c'est juste être raisonnable et puis s'accorder un temps où la grossesse s'installe.
Mmh. Puis même en dehors de ça, c'est vrai que quand on apprend qu'on est enceinte, c'est une grande nouvelle. Et puis ça peut être une nouvelle qu'on peut juste garder privée parce que c'est comme quelque chose de tout neuf
secret.
Vient d'arriver, secret entre l'homme et la femme. Et c'est sympa, ce petit moment aussi, de préserver, pour préserver notre intimité. Tout comme quand il se passe d'autres choses dans la vie, de pas commencer à le crier sur tous les toits. Parce que c'est tout neuf, ça vient de sortir. Et est-ce que toi, t'en avais parlé à ton entourage?
Alors nous, on avait juste parlé dans le cercle familial intime. Parce que on en parlera peut-être après, mais j'ai des problèmes de santé qui font que toute grossesse est pour moi un gros risque pour ma vie. Donc je suis très encadrée par les médecins, etc. Donc, bon, je l'avais quand même, sachant tout ce que ça engageait, je l'avais dit au cercle familial, mais je n'en avais pas parlé, non, à l'extérieur, puisque c'était un désir personnel de ne pas l'évoquer, tant que, du fait de ses problèmes de santé, il y avait des risques, et on a préféré garder ça, on souhaitait garder dans l'intimité.
Et puis, je disais qu'on allait reparler de ton mari. Ton mari qui était auprès de toi et qui en fait t'a soutenu en te faisant jamais sentir coupable.
Non, jamais. Alors ça, mon mari, il est super. Moi aussi, je vais lui lancer quelques fleurs, mais
maintenant qu'il est parti.
Voilà, il est parti. Mais non, mon mari là-dessus, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, la manière dont il a géré. Parce que je pense que les hommes sont tous un petit peu pudiques dans leurs émotions, mais là, je pense qu'il a été un petit peu pudique dans son émotion parce qu'il a senti que bon bah j'étais assez éprouvée dans mon corps, moralement aussi, mais dans le corps, hein, le corps en avait pris un coup. Donc il a dosé son émotion pour pouvoir être vraiment un soutien pour moi. Et jamais il ne m'a dit, ne m'a fait un reproche du fait que je n'ai pas réussi à aller. Bon, il a vu aussi que je me suis battue énormément. Hein. C'était difficile pour ma santé, je me mettais quand même en danger. Il savait que voilà, les choses n'étaient pas anodines, mais il m'a toujours soutenue, puis il m'a toujours dit, tu sais, moi je t'ai épousée pour toi, pas pour la famille ou les enfants que tu pourrais me donner. Je t'ai épousée par amour, mais pas pour ce que tu pourrais me donner. Donc, il m'a toujours rassurée et à aucun moment, j'ai senti de culpabilité. Je n'ai pas voulu non plus sentir de culpabilité parce que j'aurais pu moi-même me créer ma propre culpabilité. J'y arrive pas, je suis une incapable. Non, non, ça, je me le suis refusé. Je suis une créature de l'éternel. Il sait toutes choses. Je lui fais confiance. Non, pas de culpabilité, non.
Ouais, je trouve ça assez incroyable à chaque fois que tu parles. Ouais. Vraiment, c'est cette capacité.
C'est des bons choix.
Ouais, cette capacité à dire non, tu sais, il y a des chemins Dieu. Juste que je refuse, des chemins de pensée, je les refuse, je les considère même pas. Et je me dis, c'est tellement libérateur. Ta vie aurait pu prendre d'autres tournants si tu t'étais laissé manipuler dans tes pensées et laissé séduire par des mensonges qui t'auraient finalement fait beaucoup de mal. Mais je trouve que tu as une clairvoyance, un discernement par rapport à ce qui se passe autour de toi. C'est drôle parce que tu le dis avec tellement de simplicité. Et pour la plupart des gens, c'est pas ça
du tout.
Il y a une lucidité chez toi qui m'impressionne dans le sens que tu as la pensée de Christ. Bon, on sait qu'on a reçu la pensée de Christ quand on devient un enfant de Dieu, mais t'es vraiment imprégné de la pensée de Christ. Et donc, dès que la pensée de l'ennemi veut s'infiltrer, tu la bloques tout de suite.
Oui, il faut pas...
Parce que tu sais que son chemin, c'est juste des tourments, c'est la peur, et ça peut même mener à la désobéissance.
Ça n'apporte rien.
Ça va rien te donner.
Ça n'apporte rien, même la dévalorisation en tant que femme, de ne pas avoir pu engendrer. Non, ça, non. Ça n'apporte rien de bon, ça n'édifie pas, donc pourquoi laisser nourrir ce genre d'idées?
Oui, c'est vrai. Non, mais t'as
moi, je connais
faut pas laisser.
Je connais des personnes que... Ben, il y a un couple que je connais comme ça, mais elle en a fait beaucoup. Hein. Elle a fait 8 fausses couches. Et ils étaient vraiment comme déprimés. Mais c'est le monsieur qui nous parlait de ça. Mais c'était vraiment une remise en question de pourquoi Dieu y permet ça. Et... Là, quand j'entends Sandra parler, c'est vraiment, tu te positionnes directement comme je fais confiance à Dieu et puis Dieu, il va s'occuper de ça, il va faire le reste. Et c'est vraiment une douleur pour certaines personnes terrible de se dire, mais une fois, ok, on avait dit on va faire confiance à Dieu, deux fois, mais après 3, 4, 5. Donc le fait que tu prennes cette position-là directement, le deuil est fini, ok, mais Dieu, il prend soin de moi, il sait pourquoi les choses se passent. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que tout le monde ne peut pas le faire. Bah. Et tu le dis si facilement. Ça a l'air simple quand tu le dis. Mais tout le monde n'a pas cette faculté-là. Donc, c'est vraiment de l'espoir aussi que des messages comme ça peuvent véhiculer pour des personnes qui se retrouvent dans ces situations-là.
C'est possible de bien le vivre. Tu nous le montres là, en ce moment. Mais je rends gloire à Dieu.
sans pour autant minimiser la douleur qui va avec.
Absolument.
C'est parce que là, je veux pas non plus que
on sort des détails.
Non, mais que dès que les femmes disent ah bah tu sais, il faut pas que je sois triste, c'est parce que c'est pas du tout ce que tu as dit. Tu as dit qu'il y avait vraiment eu ce temps.
Non, j'ai été triste.
Mais il y a eu un après quoi.
Surtout que à chaque fois, surtout les deux premières, enfin surtout la première, j'ai été hospitalisée et j'ai eu vraiment ce combat où pendant 2-3 jours, on savait pas. Si le bébé était vivant, était mort, j'étais entre deux.
Okay.
On savait pas. Donc il y a une lutte, il y a une lutte de foi aussi. Hein. Le combat, Seigneur, ne permet pas. Au nom de Jésus, je chasse la mort. Enfin, on passe par plein de phases possibles. Et puis bon, malheureusement, les choses ne. Voilà, l'issue a été ainsi. Mais oui, il y a eu une souffrance. Faut pas la nier. Il y a eu une souffrance. Mais après, moi, j'ai fait mon deuil, j'ai pleuré et je suis pas restée. J'ai décidé de pas rester dessus parce que ça n'apporte rien en fait.
Mais est-ce qu'il y a eu quand même un processus ou alors t'as pleuré puis un jour t'as dit bah c'est bon, je me relève.
Non, alors moi donc j'ai fait ce deuil, j'ai décidé d'aller de l'avant, mais après ça m'arrivait des fois de penser à cet enfant, de penser peut-être où il en serait aujourd'hui s'il n'était pas. S'il était encore là, etc. Mais je laisse pas cette pensée rester ou se nourrir et continuer parce que sinon tu peux rentrer dans une déprime, une nostalgie, une déprime ou quelque chose comme ça. Donc oui, la pensée vient, mais je la garde pas, je la nourris pas. Parce que sinon, tu passes à autre chose. Parce que sinon, je pense que ça peut même engendrer peut-être des déprimes.
Mais il y a un grand danger, c'est celui de tomber dans la victimisation en se disant « Dieu est injuste ». Ça, c'est le pire parce que ça va venir vraiment miner notre foi à la base. Et il faut vraiment partir du principe que Dieu n'est pas injuste. Dieu connaît toutes choses. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui permettent, on n'en a pas l'explication. Ça ne remet pas en cause non plus notre foi. Parce que des fois, il y a les amis de Job qui viennent pointer du doigt en disant « t'as manqué de foi ». Ton bébé aurait pu ressusciter. Qu'est-ce que t'as fait ? Moi, je l'ai entendu, donc je sais de quoi je parle. On me dit, ben non, mais ton bébé va ressusciter. Ça va être difficile. En tout cas, il y a vraiment des accusations qui peuvent venir au niveau de ta foi. Donc, c'est pas que Dieu est injuste, c'est pas que tu as manqué de foi. C'est juste quelque chose que tu ne comprends pas. Alors après, il y a une marge dans notre vie chrétienne pour beaucoup de choses, et particulièrement dans le temps des épreuves, où il y a une marge qu'on ne comprend pas. Et là, il faut avoir l'humilité de dire « Seigneur, ton intelligence me dépasse. Il y a des choses que je ne comprends pas, que personne ne peut m'expliquer. Et ça ne remet pas en cause ma foi pour toi, Seigneur. Ça ne remet pas en cause la grandeur de ton nom. Ça ne remet pas en cause ce que je sais de ta bonté, de ta fidélité. Mais c'est comme ça. Et je pense que ça demande de l'obéissance, ça demande de l'humilité de dire « Seigneur, je ne sais pas pourquoi et ça t'appartient.
Et c'est drôle parce que autant on peut avoir cet attachement à vouloir comprendre pourquoi dans les épreuves et puis à dire mais Seigneur pourquoi, et puis autant dans la faveur, dans la bénédiction, ça nous dérange beaucoup moins de pas comprendre pourquoi. C'est comme ah, j'ai été bénie, j'ai eu ci, j'ai eu ça, alléluia, gloire à Dieu. Et là tu te demandes mais non mais Seigneur pourquoi est-ce que tu m'as béni, pourquoi est-ce que tu m'as donné ça, pourquoi est-ce que la faveur est méritée, etc. Tu sais, je veux dire, ça nous pose moins de problèmes de pas comprendre. Et le fait de ne pas comprendre dans l'épreuve, au contraire, peut faire aller plusieurs personnes à reculons et à remettre notre foi en question. Et c'est là qu'on voit que dans les épreuves, il y a toujours un double enjeu. Il y a, oui, vraiment ce qu'on a perdu, en l'occurrence un enfant, mais il y a aussi tout l'enjeu, comme tu disais, Anne, de notre foi. Et notre foi est précieuse, notre foi a un prix précieux, c'est notre foi en Jésus-Christ qui triomphe, qui doit triompher du monde. Et c'est de comprendre tout le temps ce double enjeu qu'il y a. C'est oui, c'est passé ça d'un point de vue naturel et puis même émotionnel, c'est ce que je ressens, mais quel est l'enjeu spirituel derrière? Le vrai enjeu spirituel, c'est vrai, à chaque fois c'est finalement qu'on se détourne de notre foi et qu'on se détourne de Dieu et qu'on finisse par l'accuser. Et tu n'as pas eu ces tentations?
Pour moi, en fait, c'était vraiment le test de la confiance en Dieu.
Ouais.
Vraiment. Parce que, est-ce que tu as confiance que Dieu a un souhait pour toi de bonheur? d'un plan de bonheur et non de malheur. Mmh. Et vraiment, moi, j'ai vraiment pas voulu nourrir justement toutes ces questions. Pourquoi ça, pas du tout. Il faut pas le faire parce que ça peut amener même une rébellion contre Dieu. Non seulement, voilà, le but, ça crée une rébellion, un sentiment qui part d'une injustice,
voilà,
et puis qu'après, qui se transforme comme une rébellion, puis à la fin, comme un rejet de Dieu et la perte de la foi.
Exactement.
Donc, ça commence par un petit à petit, mais à la fin, tu peux comme ça perdre ta foi et puis rejeter Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer. Voilà, il ne faut pas commencer à ouvrir ces portes-là et à les laisser grandir. Et voilà, moi, je me suis dit, Seigneur, c'est une question de confiance. Non, je te fais confiance. Ouais. Tu as choisi cette voie-là, je ne la comprends pas, ce n'est pas grave. Je te fais confiance. Pour moi, c'était vraiment la confiance, garder confiance.
Quand on pose la question « pourquoi ?», c'est déjà, je pense, une arrogance envers Dieu. Et quand tu dis « c'est une porte qu'il ne faut surtout pas ouvrir », et ça se prend en amont. Et là, on parle de fausse couche, mais ça peut être dans n'importe quelle épreuve.
Ouais.
La première question de la rébellion, c'est pourquoi ? Il faut s'interdire de se la poser. Ça paraît difficile parce que naturellement, l'humain cherche à comprendre. On veut comprendre pourquoi, on veut comprendre comment, on veut comprendre quand. Eh ben, accepte pour une fois de ne pas comprendre parce que ça va te sauver de la rébellion. Vraiment. De toute façon, qu'est-ce que ça peut apporter de comprendre ? C'est fait. On va de l'avant et Seigneur s'occupe du reste.
Ouais, c'est ça, c'est il faut aller de l'avant, le pourquoi ne nous fait pas avancer, le pourquoi nous fait constamment regarder en arrière et à notre situation actuelle, c'est plutôt aujourd'hui le jour du comment avancer, comment me relever, comment croire à nouveau. Puis faut être aussi sincère dans notre relation avec Dieu, se dire que là où on souffre, Dieu n'a pas de plaisir à nous voir souffrir. Dieu n'est pas là. Oh, je vais voir si elle résiste bien à la douleur. C'est pas du tout le cœur de Dieu.
Mais parce que je l'entends beaucoup.
Bah oui, tu vois, c'est
moi, j'entends beaucoup de gens qui disent dans l'épreuve, mais Dieu veut m'apprendre quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur ? Puis ça, c'est pernicieux. Mais alors, il n'y a pas pire que de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans l'épreuve ? Bah, t'as une épreuve. Ne trouvez pas comme une chose extraordinaire d'être dans la promesse de l'épreuve. T'es dans l'épreuve, c'est normal dans la vie chrétienne. Ouais. Puis c'est comme ça. Est-ce qu'on est capable, une bonne fois pour toutes, de se dire, bah c'est comme ça. Point. C'est difficile, hein. Mais c'est pernicieux de dire Dieu veut m'apprendre parce que ça sous. Excuse-moi, Mathilde, là, je te rends la parole après. C'est juste que ça sous-entend que Dieu est assez méchant pour t'imposer des souffrances. C'est dur de perdre un enfant. Ça sous-entend, si tu dis « Dieu veut m'apprendre par là quelque chose », ça sous-entend que Dieu te fait du mal sciemment pour que tu apprennes quelque chose. Et ça, moi, je ne rentre pas là-dedans.
Mais c'est ça, il faut revenir à la parole, dans le sens que la parole de Dieu dit « L'ennemi vient pour voler, égorger, détruire, et Dieu est venu pour nous donner la vie d'abondance. »
Bien sûr.
Donc, c'est certain que l'ennemi aime ça, dérober les plans que Dieu avait pour nous. Et puis après une fausse couche, ben, il y a quand même des projets d'abondance. Il y a une vie quand même abondante en Dieu. Et rester au fait que ben, Dieu est toujours bon. Le diable est méchant, mais Dieu est bon. Malgré l'épreuve, malgré le fait que l'ennemi aime ça nous faire du mal, et ben, la bonté de Dieu surpasse tout ça.
C'est important de le redire, peut-être. Ouais. C'est important de méditer ça. Même quand on a l'épreuve, moi je pense que
Dieu console. Moi, je m'en suis évidemment beaucoup remis entre les mains du Seigneur, et j'ai vraiment ressenti et vécu cette expérience de la consolation divine. C'est-à-dire où Dieu, tu as ton cœur qui est déchiré, et tu sens vraiment Dieu comme un baume qui met sur ton cœur pour te consoler et te donner puis donne cette force. Et donc c'est sûr qu'il y a aussi cette démarche personnelle. Il y a cette part à faire qu'on doit faire soi-même.
Ouais.
Mais Dieu répond, il répond toujours. Quand on l'invoque, il répond toujours. Et il vient et il met ce baume de consolation. Et il est là pour toi, c'est ton Père, il te veut du bien.
Voilà.
Donc, toujours rester confiant, confiant, toujours.
C'est que Dieu a, dans l'épreuve, Dieu apporte la consolation. Et la consolation ne vient pas forcément avec des réponses. Et c'est là qu'on doit accepter de lâcher prise, de dire « j'accepte ta consolation même s'il n'y a pas de réponse. J'accepte de croire en toi même s'il n'y a pas de réponse. J'accepte de croire dans ta bonté même s'il n'y a pas de réponse. » Et c'est là où quelquefois on peut être partagé, mais tu vois, ta vie et ta vie à toi aussi, Anne, parce qu'on parle de ces histoires de bébés, sont des témoignages comme quoi Dieu a guéri, Dieu peut guérir, et Dieu peut guérir sans donner de réponse, et c'est possible d'aller de l'avant
Après, comme tu dis, c'est une démarche personnelle. Il faut avoir ce désir d'aller de l'avant. Il faut avoir ce désir de se dire « la consolation était suffisante. La grâce aujourd'hui est suffisante pour que je puisse avancer. » Et quelquefois, bah, je pense qu'il y a ce côté, et ce qui est réellement un piège de l'ennemi, un mensonge de l'ennemi qui nous dit « tu dois comprendre avant de passer à l'étape suivante. » Mais le succès de l'épreuve, c'est pas de l'avoir comprise. Mmh. Le succès de l'épreuve, c'est de toujours croire en Dieu et de garder la foi. C'était ça le vrai succès de l'épreuve. Et c'est vraiment pas les réponses. En fait, faut se défocaliser. Et juste avant de terminer, je voulais vraiment lire ce verset dans Psaume 116 au verset 8. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Et je crois que c'est une parole qui peut vous encourager, qui va vous encourager. Et certains, vous avez besoin de revenir sur la terre des vivants. Vous avez besoin de revenir sur cette terre, de reconnecter à cette vie. Il y a encore une vie, il y a eu une épreuve. Cette épreuve, elle a été dure. Cette épreuve, elle vous a volé des choses. Elle vous a déchiré le cœur. Mais oui, Dieu est celui qui panse les plaies, celui qui répare les cœurs brisés. Et vous pouvez encore aujourd'hui, sur cette terre, marcher devant Dieu, marcher sur la terre des vivants. Vous avez besoin de revenir ici. Vous avez besoin de découvrir les bons plan que Dieu a pour vous, les projets de paix et de bonheur, de découvrir la bonté de Dieu, d'y goûter. Encore une fois, il y a encore des choses pour vous à accomplir sur cette terre. La vie n'est pas finie, la course n'est pas finie. Il doit y avoir un après parce que Dieu est celui qui t'a délivré. Dieu est celui qui a vidé les larmes de tes yeux. Il n'y a plus de larmes aujourd'hui. C'est le temps de se relever. Et je le dis vraiment dans l'encouragement, non pas pour dire ah, arrête de pleurer et tout, ça suffit. Non, la douleur a été là, mais la consolation est disponible aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu renonces à avoir des réponses, si tu renonces à être consolé comme toi tu veux être consolé, tu vas réaliser que Dieu t'a guéri, que Dieu l'a fait et qu'il est temps aujourd'hui de te lever, qu'il est temps aujourd'hui de marcher, qu'il est temps de revenir sur terre et d'œuvrer pour le royaume de Dieu parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a encore des projets pour toi. Il veut encore t'utiliser pour sa gloire. Et on est heureuse ici de voir que toi, Sandra, tu t'es relevée, tu réponds encore à l'appel de Dieu, de voir que toi, Anne aussi, tu t'es relevée. Je réponds à l'appel de Dieu. Vous êtes des femmes qui faites énormément de bien à la francophonie. Et nous toutes, on a vécu d'autres épreuves. Et si on s'en était pas, si on était resté au fond, bah, ça aurait été dommage. Et Dieu veut faire quelque chose avec chacune de nos vies, avec vos vies, avec votre vie, à vous. Alors aujourd'hui, revenez sur la terre des vivants et déclarez la bonté de Dieu. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de Femme et nous découvrirons la merveilleuse histoire de l'adoption de la petite fille de Sandra. Donc on se dit à demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI-TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.